comme si je travaille fort. Donc c'est facile, j'ai pas le temps. Fais, je pisse quand je dors. Tu connais ton sort, tu vas être chaud quand ça sort. J'ai pas peur de la mort. Et je m'en fous quand tu sors. Ton fucking album de merde. Non, c'est pas assez fort. Non, c'est pas assez loud. Je m'en fous si kill goat. Si je m'appelais Simon, j'aurais du gaz et pas des fake bars. These things, they take time. Took me a year to become imposter. The beat keep going from one moment. Don't I'm going, of course I'm finished. Late, I'm lit, I know I'm going. Drink, I drink, I know I'm going. Oh, yeah. I say, bring more in, bring more in, bring more in. Oh, yeah. I say, bring more in, bring more in, bring more in. The beat keep going for one more minute. Drunk, I'm drunk, of course I'm finished. Late, I'm lit, I know I'm going. Late, I'm lit, I'm going, I'm going. See, but I say, bring more in, bring more in, bring more in. See, but I say, bring more in, bring more in. Shout-out quand ça sort,
connaissez le chèque,
directement du government, yeah. C'est ça ton goût dans le rap.
Je suis allé, allé, des gens qui vous a chialé, chialé. Je veux que fuck et blase, blase. Pas moyen de les calmer, calmer, non. Ouais, je suis allé, allé, des gens qui vous a chialé, chialé. Je veux que fuck et blase, blase. Pas moyen de les calmer, calmer, non.
Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. C'est Xavier Jean qui s'installe pour la prochaine heure en ce 20 janvier. Voilà. Comment ça va? Non, je fais des farces. Peut-être en avez-vous entendu parler. Ça fait quand même jaser. Il y a un nouveau système qui permet de poser des questions, de générer des conversations avec une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en question, le chat GPT. Deux mauvaises jokes peuvent se faire ici au Québec à cause de tout ça. Le chat en question, on peut lui poser des questions, on peut lui demander de faire des textes. Et évidemment, à partir de ses connaissances, sa base de données, peut donner certaines pistes, certaines discussions, mais évidemment, comme c'est un robot, comme c'est une intelligence artificielle, On a des craintes sur comment le logiciel pourrait être exploité, parce qu'évidemment, nécessairement c'est pas nécessairement infaillible, c'est sûr et certain, au sens où en plus de lui poser des questions, on peut par exemple lui demander, et ça, ça a été testé pour l'avoir vu sur Twitter notamment, en 500 mots. Pourquoi le Québec devrait être indépendant? Mettons que c'est ça la question. Bon, mais le petit texte va être généré, va respecter le 500 mots et va donner des pour et contre. Tout en ayant à peu près toujours la même conclusion. Mais évidemment, il y aura toujours des gens qui seront d'accord ou non avec ses idées. Donc, tu sais, en voulant dire que l'intelligence artificielle laisse toujours planer un certain doute au sens où ne sera pas catégorique et va dire « ceci est la bonne réponse ». Il va toujours y avoir un « oui, mais ceci est une intelligence, là, je n'ai pas la réponse absolue ». Ce qui fait également en sorte, et ce que la question peut se poser, c'est que comme le logiciel, on peut lui demander de rédiger des textes avec une certaine longueur de mots, donc quand on lui pose la question, ou qu'on lui demande ce qu'il pense de telle ou telle chose, évidemment, là, on commence à avoir un petit peu peur pour tout ce qui est plagiat, pour tout ce qui est travaux non faits par un élève ou par des dissertations d'école qui pourraient être rédigées beaucoup plus rapidement grâce à ce genre de logiciel. Parce que, évidemment, on le dira pas, à la base, c'est un espèce de logiciel qui pourrait plutôt compétitionner avec Google, par exemple. Parce qu'on lui demande une question et l'intelligence, le chat GPT, fait la recherche. Fait quand même la recherche pour nous autres. Donc, en quelle année telle affaire? Peux-tu m'expliquer telle guerre? Quel sera l'avenir dans telle industrie? Non. Lui... Et c'est généré par une intelligence, donc se base sur certains faits, mais il y a peut-être une certaine part aussi de projection. Mais encore une fois, comme c'est une intelligence artificielle, ben il n'y a pas nécessairement une garantie que ça va nécessairement se produire. C'est sûr et certain. Donc après ça, ça laisse libre interprétation, évidemment. Ce qui a fait en sorte que même si l'application a à peu près comme deux semaines d'existence en ce moment, il y a déjà des gens qui se sont penchés à essayer de déterminer ou du moins trouver une solution, de trouver une manière de détecter si ChatGPT est original, ben en fait, si le texte qu'on reçoit est trop bien écrit grâce à ce logiciel-là qui a été mis, pas créé, mais en tout cas qui a été conçu au Québec. Un outil montréalais pour détecter les dérives. Draft and Goal vient de mettre en ligne un outil gratuit qui permettrait de détecter avec une fiabilité de quand même 93% si un texte a été généré ou non par un robot conversationnel du genre de ChatGPT. Parce qu'évidemment, dans le cas de ChatGPT, eux se sont spécialisés dans ce genre de discussion-là et que si tu lui demandes encore une fois en tel nombre de mots, quelle serait l'opinion de... Que pourrait-on faire de l'analyse du livre de Danny Laferrière, mettons, tu sais? Fait genre de travaux à remettre à l'école. Donc, c'est un peu pour analyser les textes et pour regarder si à travers ce texte-là, il y a des grands bouts qui... donne l'impression que c'est un chat qui l'aurait écrit. Quand on dit chat, évidemment, on peut poser ce genre de questions-là à Siri, à Alexa. Probablement que ça sera peut-être pas aussi détaillé que dans le cas de ChatGPT, vu que c'est fait pour de la conversation. Mais comme c'est la prochaine étape, et également... où la première utilisation de ChatGPT veut être faite, c'est de, par exemple, créer des outils de clavardage lorsqu'on va sur des sites Internet. Donc, si sur un site Internet, on a une espèce de petite boîte pour discuter avec un employé qui est à disposition, Ben, ce chat-là, tu peux le mettre à on, passer 6 heures le soir, et que les réponses soient quand même acheminées à quelque chose entre-temps. Donc, de poser la question de est-ce que cet article est toujours disponible ou reste-t-il telle grandeur? Ben, le chat GPT, si tu lui donnes les bonnes informations, si tu lui donnes l'inventaire, devrait être capable de répondre à ce genre de questions-là. Donc, évidemment, il n'y a pas juste de la tricherie scolaire qu'on peut avoir avec grâce, entre guillemets, à ce logiciel. On peut y avoir d'autres choses aussi. On ouvre dans un furteur la page web de détection Draft and Goal. On copie-colle dans une boîte un texte. Pour l'instant, c'est en anglais. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus rapide. La version française devrait arriver par la suite et probablement que d'autres langues seront également développées par la suite. D'au moins 200 caractères minimum. Donc, un court texte, là, malgré tout, avec espace et ponctuation compris. On appuie sur analyser et le logiciel offre un pourcentage de chances que l'essai a été rédigé par un être humain ou par une intelligence artificielle. Si l'on teste un contenu dont on connaît déjà la nature, on peut aussi indiquer au bas de l'écran si le résultat obtenu par l'entreprise est juste ou non. Donc, pour aider le logiciel, si on met un texte que nous avons rédigé nous-mêmes et qu'il dit « ce texte n'a pas été rédigé par une intelligence », tu peux cocher la case de « est-ce que mon résultat est exact ?» Un peu comme, j'ai envie de dire, à une certaine époque, le jeu Akinator, une espèce de génie qu'on lui demande, il nous dit « pense à quelqu'un ». Et je vais essayer de deviner. Et justement, à force de cliquer sur oui, non, peut-être, ben il réussit tant bien que mal à se rendre jusqu'à la personnalité que l'on choisit. Évidemment, plus la personnalité est obscure, plus ça va être difficile pour le logiciel. Mais si on prend des personnalités connues ou des gens très, très, très connus, comme par exemple des acteurs d'Hollywood, des choses comme ça, ben le logiciel, d'habitude, pose 3 questions et donne la réponse automatiquement. Évidemment, si on commence à tomber sur des personnages de fiction, des choses comme ça, des fois, il va s'en rendre compte. Il va poser la question, est-ce que ce personnage est-il réel ou fictif, etc. Donc, il s'améliore avec le temps. Le logiciel existe encore, d'ailleurs, mais quand même. Donc, cette espèce de cette espèce d'intelligence artificielle à une autre époque pour un peu plus ludique, quoique le logiciel enregistre quand même les informations, fait quand même en sorte que ça s'améliore avec le temps. Donc évidemment, si on va à côté dans le chat GPT puis qu'on lui demande d'écrire un texte de 500 mots, on l'envoie dans Draft and Goal. S'il détecte, tant mieux. S'il détecte pas, l'on peut lui dire « Attention, ceci était un faux texte ». Évidemment que ce 93%-là devrait aller en s'améliorant, mais à chaque fois qu'une nouvelle langue va être ajoutée, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des petites incongruités, c'est sûr et certain. Pour arriver à détecter avec justesse si un texte a été généré par un robot conversationnel, Draft and Goal utilise l'apprentissage machine. Les modèles d'IA générative sont souvent probabilistes. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui font ce qui est écrit, qui n'est pas totalement aléatoire. Donc évidemment, si la question est teinté, le texte va abonder dans ce sens-là. Un autre exemple que j'avais vu sur Twitter, pourquoi le Québec devrait devenir un pays et non pas est-ce que le Québec devrait être indépendant? Donc, tout dépend évidemment de comment la question est posée. Le texte généré automatiquement va détecter s'il doit être favorable ou défavorable. Et évidemment, il y aura toujours une dernière ligne de conclusion pour faire l'espèce d'apport entre les deux en disant « Mais il y a plein de théories qui vont dire les deux opinions, donc ce n'est pas obligatoirement à prendre pour du cash. » Fait que tu sais, on donne quand même une espèce de petite protection au cas où, de justement, ça c'est un logiciel d'amusement, ce n'est pas une vérité absolue. Draft and Goal arrive à détecter des empreintes laissées par l'intelligence artificielle, notamment en regardant plusieurs éléments dans le style d'écriture. Parce que s'il y a bien une autre chose à détecter pour des professeurs, par exemple, c'est si on corrige plusieurs travaux, et ça, ils vont le dire, règle générale, souvent, si on corrige plusieurs travaux et que soudainement, le texte suivant qui est soumis ont un style d'écriture différent, parce que quand même chaque personne a un style d'écriture, qu'il le veuille ou non, ben on peut se poser la question, est-ce que le texte a vraiment été rédigé par cette personne-là, quand même qu'il y aurait 3-4 mots ici et là qui seraient un peu plus différents. Les tournures de phrases sont propres un peu à chacun. Si l'outil est seulement fait en anglais pour le moment, bon, une version française arrivera d'ici la fin de janvier, selon Nabil Taïeb, qui est cofondateur de l'entreprise montréalaise. Il y a beaucoup plus de textes en anglais sur le web, donc le modèle de départ s'entraîne plus facilement et rapidement avec l'anglais qu'avec le français. Et évidemment, il envisage d'étendre le service à d'autres langues dans le futur. Donc, Draft and Gold, brouillon et but, je sais pas. Draft and Gold. Gold est pris au premier degré, évidemment. Draft and Gold, site qui peut permettre de détecter si ChatGPT sera ou a été utilisé pour un texte ou s'il a été rédigé essentiellement par un étudiant. Là, je dis étudiant, évidemment, parce que c'est dans un contexte académique qu'on commence à poser des questions de « Ouais, ce genre de logiciel-là est-il vraiment intéressant? » Il est intéressant en général pour ce qu'il peut éventuellement faire, mais c'est sûr et certain que s'il y a du positif dans quelque chose, il y aura toujours un aspect négatif où il y a quelqu'un qui va vouloir essayer d'en profiter. C'est toujours un peu comme ça. Donc, ChatGPT, la nouvelle sensation web à qui on peut poser toutes sortes de questions, comme écrire et faire des devoirs. C'est aussi une possibilité. Thierry Larose, on débute l'émission en musique avec des nœuds dans les doigts sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Vous écoutez le deuxième service. Retour au deuxième service. Une question éthique, comme ça avait déjà été soulevé ici à l'émission notamment. Et la question se pose parce que, bon, ça regarde... Ben, ça regarde mal, oui et non, mais la question se pose quand même. Est-ce que la série sur Lac Mégantic arrive à la télévision un peu trop rapidement? Et sera à l'affiche sur le Club Illico dès le 9 février, une série signée par Sophie Lorrain et Alexis Durand-Brault. Habituellement, ils donnent un bon produit. Mais là, on va au Music Café et on revit ce soir de l'événement qui s'est passé à Mégantic et on passe les journées d'après, j'ai envie de dire. Donc, on se souviendra qu'il y avait eu un tollé à une certaine époque où dans une série Netflix, il y avait eu des images qui avaient été mises en vrac dans des manifestations, dans un espèce de clip de fin du monde qui disait qu'il y avait eu une explosion nucléaire à Londres dans la série fictive, mais que les images en tant que telles étaient des images d'archives de Mégantic. Évidemment, ben, la série Netflix avait corrigé le tout et retiré les images par la suite, me semble, il l'avait fait pour la série Travelers. Sauf erreur, en tout cas, les images avaient été retirées parce que eux les avaient pris seulement dans une banque d'images sur Internet. Donc déjà en partant, il y avait quelqu'un à Mégantic qui avait mis des images de cette tragédie-là et les gens qui regardaient cette série-là ont fait comme ben là, c'est à côté de chez nous, je suis pas à l'aise. Avec raison. Et là, on en rajoute une couche, comme je le disais, en ajoutant cette série québécoise réalisée avec... on a tout recréé, évidemment. On n'a pas fait d'image d'archives non plus, du moins on l'espère, pour ce qui s'est passé en 2013, juillet 2013. Donc un petit peu moins du dixième anniversaire... du dixième anniversaire... entre guillemets, là, de la, ben, du dixième... du dixième, de la dixième année de l'événement... Donc, il va sortir sur le Club Illico d'ici deux semaines. Donc, il devrait être à la télé peut-être cet automne, peut-être l'hiver prochain. On a posé la question. Est-ce que certaines personnes au visionnement de la bande-annonce réagissent plus fortement que d'autres? Évidemment, selon la médecin Mélissa Généreux, ex-candidate pour Québec solidaire dans la région de l'Estrie. Mais j'ai aussi envie de dire que des personnes ont aussi des réactions assez positives qui disent « Enfin, je me reconnais là-dedans ». Donc évidemment, il y a les deux, il y a les deux opinions qui se valent. La médecin conseille qui est à la tête de la santé publique lorsque la tragédie est survenue ne croit pas que cette série n'aurait pas dû voir le jour ou qu'elle arrive trop tôt, même si ce serait toujours trop tôt pour certaines personnes, c'était quelque chose d'inévitable. Notre rôle n'est pas de juger si c'est bien ou non de faire la télésérie, mais d'être conscient que c'est attendu que ce type de documentaire survienne. Nous, notre rôle est d'accompagner la communauté pour mieux y faire face. Encore une fois, il y a une petite différence entre le documentaire et une série de fiction sur le Club Illico. Il y a quand même une petite différence entre les deux, j'ai envie de dire. Comme je disais, bon, dans la bande-annonce, il y a quand même beaucoup d'acteurs que l'on a vus récemment, notamment Jean-Philippe Perra, Catherine Paquin-Béchard, Olivier Gervais-Courchêne, Éric Robidoux, Bruno Marcil, Luc Sonnet, Julie Ringuette, Simon Lacroix, Carl Farah, Carla Turcotte, donc il y a quand même beaucoup de gens. Bon, les effets spéciaux de la bande-annonce avec le feu, l'explosion, on repassera. Là, ça reste quand même une série télé québécoise. Ce n'est pas Netflix non plus, mais quand même. Donc au moins, ce bout-là d'explosion ne risque pas d'être là trop longtemps, mais quand même, c'était correct, on va dire, pour une bande-annonce, les effets spéciaux. Hein? Blague à part, le médecin conseil explique que cette série n'est d'ailleurs pas une surprise pour la communauté de Lac Mégantic et que plusieurs stratégies ont été mises en place pour accompagner les gens de Mégantic afin que tout se passe pour le mieux. Cela fait plusieurs mois qu'on est en collaboration, qu'on fait le lien entre la communauté et la production. C'était connu et anticipé. Évidemment, on se souviendra qu'il y a eu une annonce qui a été faite, mais qu'en plus, les gens de Mégantic étaient peut-être les plus préoccupés, aient été mis dans le bain de la production de cette série-là. Ça reste quand même une attention particulière qu'on fait pas nécessairement avec tout là, ce genre de série-là, mais que, comme justement, parce que c'est encore frais, comme c'est encore récent, j'ai envie de dire que c'est quand même une relative bonne attention qui a été portée. Qu'on fait une équipe de proximité avec le CIUSSS en appui est aussi à pied d'œuvre pour soutenir la communauté en vue de la diffusion. On a des stratégies universelles pour cibler l'ensemble de la population mégantique et des stratégies plus ciblées pour les personnes à plus haut risque ou celles qui vont avoir des réactions plus fortes au visionnement. C'est d'outiller l'ensemble des intervenants de la communauté que le milieu, tant le milieu scolaire que les intervenants sociaux au niveau du CIUSSS et même les policiers soient au courant des différentes réactions potentielles et la manière de bien accompagner les personnes qui vivent des réactions. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui est abonné au Club ICO, donc ça va être en deux temps, comme je le disais. Il va y avoir un premier temps quand la série va être mise en ligne, quand la série va être disponible. J'ose croire qu'on va fournir aux gens qui vont le vouloir la possibilité de visionner la série, du moins du côté de Mégantic et peut-être des régions avoisinantes, qu'on va leur donner la possibilité de visionner sans nécessairement être obligatoirement obligé de s'abonner au Club Illico. Ce serait la moindre des choses, qu'on leur fournisse quand même la possibilité de regarder soit l'entièreté de la série, soit une partie, soit la première moitié, mais qu'au moins il y a la possibilité qu'il ne soit pas obligé de s'abonner, parce que ça serait toujours bien le bout qu'il soit obligé de s'abonner au Club Illico pour regarder une série qui parle d'eux autres. Du moins, les personnages de la série risquent d'être des gens un peu plus fictifs que les gens, les véritables personnes, parce que si en plus c'est les véritables noms, là, ça rajoute une couche, ça devient un peu macabre tant qu'à moi, mais quand même. Donc il faut faire la part des choses. À quel point il y aura de la fiction au travers de tout ça versus ce qui s'est passé pour vrai. En tout cas, du moins, on espère que la fiction va l'emporter là-dessus. Parce que s'il y a réellement des vrais noms de gens qui habitent Mégantic, vivants ou non, qui se retrouvent dans cette série-là, là, je trouve que ça commence à dépasser, ça commence à dépasser les bornes. Les équipes de proximité connaissent les personnes plus à risque d'avoir des réactions négatives. Pour celles qui souhaiteraient tout de même regarder la série, la docteure Généreux explique qu'elles seront accompagnées afin que l'expérience soit plus positive que négative, puisque cela peut causer des émotions de panique, de détresse. Il faut qu'elles aient la place d'accueillir ces émotions-là et de trouver les stratégies pour qu'elles ne les empêchent pas de fonctionner, explique la docteure Généreux. Pour les images catastrophes, il n'y a pas de ligne directrice qui dit de ne pas diffuser ces images-là. C'est sûr qu'on va inviter les médias à ne pas seulement mettre l'accent uniquement sur les émotions fortes, mais aussi sur le vécu plus personnel des gens directement impliqués et sur le processus de rétablissement. Comme je le disais, de faire une bande-annonce exclusivement avec des affaires qui explosent, avec du monde qui court, avec du monde qui pleure, ce n'est pas non plus la meilleure bande-annonce vendeur, du moins quand ce sont des événements qui se sont passés récemment. Je dirais qu'il y a une certaine distance avec d'autres événements qui pourraient, oui, mettre l'emphase, mais encore une fois, est-ce que ça serait pertinent de ne faire que le résumé d'un événement historique avec un film, avec uniquement les bouts tragiques? Ça commence à devenir touché. Donc, en espérant que ça se fasse de bonne manière, que ça ne soit pas que pour le show, comme je le disais, d'ici deux semaines sur le Club Illico, à la télé, normalement, on l'envoie à l'automne, sinon dans un an, l'hiver prochain. Dans le plus... la pire case horaire serait ce printemps parce qu'il y aurait des épisodes qui seraient diffusés à peu près dans la période où les événements se sont passés en 2013. Donc, que la série rencontre le 10e anniversaire, ce serait terrible. Tant qu'à moi, donc... Ou à moins que pour le 10e anniversaire, on l'envoie à l'automne, mais encore là, c'est encore proche, donc... L'hiver prochain pourrait être une bonne possibilité, mais encore une fois, ça reste à la décision du diffuseur de mettre la série en onde. Mais dans le meilleur des cas, on attend quand même un petit peu avant de l'envoyer officiellement à la télévision. Ça s'appelle Mégantic et ça relate les événements de 2013 avec des images d'explosion, avec des effets corrects, ou en tout cas la qualité de vidéo qu'on a présentée était moyenne, en espérant que la diffusion soit pas aussi étrange. Courte pause au retour, on continue de parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service, ici même sur les ondes de 94.3 et le CFAC 88.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeon de monstre ou black, hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud!
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendra toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Jamais j'aurais pensé que tu tombes, que tu tombes avant moi. Non, jamais j'aurais pensé que tes jours se font mal.
Balance, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Restons en techno, ou revenons en techno, c'est selon. Des fois, on essaie des choses, des fois, ça ne fonctionne pas. Et dans le cas de Google, on a raté la cible avec sa plateforme de jeu Stadia. Donc, après... à peine 4 ans d'existence, Google Stadia sera officiellement débranché. En fait, a été débranché le mercredi à 23h59, heure du Pacifique, à l'âge de 3 ans. Pas tout à fait 4 ans, 2019-2023. Google Stadia était un service de jeu nuagique qui combinait un contrôleur de jeu Wi-Fi qui permettait aux utilisateurs de diffuser les jeux via des navigateurs web, la TV, les applications mobiles ou Chromecast. Donc, on ouvre un ordinateur et on peut diffuser son jeu un peu partout. Septembre 2023, on avait déjà levé un premier flag que la plateforme allait peut-être... il allait avoir une fin éventuelle. 279 projets depuis la création de Google ont été abandonnés de cette manière-là, c'est-à-dire du jour au lendemain. On se rappellera de Google Plus, qui se voulait l'alternative à Facebook. Ça a connu également un succès ultra mitigé. Stadia, son service de jeu à la demande, a été annoncé en fin de vie à la fin septembre. Un article de blog dans un article de blog sur The Verge, Phil Harrison, VP directeur général, avait fait l'annonce, bien que l'approche de Stadia de mettre en streaming l'entièreté d'un jeu vidéo pour les consommateurs a été construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné l'adhésion des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre nouveau service de streaming Stadia. Donc, un peu comme une série télé, comme une... en fait, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Mais en fait, comme une série télé, le jeu serait généré en continu. Donc, au lieu que le jeu soit téléchargé et installé sur un ordinateur comme on l'a toujours un peu connu. Dans le cas de Stadia, c'était vraiment diffusion du jeu. Donc, on... peut-être qu'on pouvait précharger certaines choses, mais quand même, donc le jeu était téléchargé au fur et à mesure où on jouait, donc il était en streaming. Donc peut-être que la qualité de l'image pouvait diminuer pendant la session de jeu si la connexion Internet faiblissait quelque peu ou revenait à son beau fixe par la suite. Donc ça demandait quand même une certaine connexion Internet de bonne qualité, parce qu'évidemment, ça pouvait dégénérer ultra rapidement sinon. Ce qui faisait en sorte également que il y avait une manette de Google Stadia qui était mise en vente, donc pour jouer à ces jeux-là, et qui n'était utile que sur Stadia. Donc en ce moment, des gens qui ont eu cette idée d'acheter la manette pour jouer à la plateforme, ce qui n'est pas complètement illogique, mais quand même, se posaient la question. Est-ce qu'on a acheté une manette à 50, 60, 70$ pour rien? Semblerait que non. Parce que Google offrira la possibilité aux propriétaires de la manette actuelle d'activer la fonction Bluetooth pour que celle-ci puisse se connecter sur d'autres plateformes. Donc, la manette de Google Stadia devrait pouvoir fonctionner avec les autres. Il sera toutefois possible d'ici la fermeture du service de jouer en mode Bluetooth à l'aide d'un câble USB. Donc, pour les utilisateurs de Bluetooth, il y aura la possibilité de s'en servir ailleurs que uniquement sur Google Stadia. Donc, l'achat ne sera pas complètement perdu. Mais quand même, la question était la question était posée, malgré tout. Les gens qui avaient peut-être pris un abonnement un peu plus long, peut-être un abonnement annuel au service de streaming, seront remboursés. D'ici la mi-janvier, prévoit-on, ne va pas rembourser les abonnements Stadia Pro. Les joueurs pro pourront garder leur abonnement gratuitement jusqu'à la fermeture du service, donc jusqu'à il y a 2 jours. Durant la période de fermeture du service, il sera possible d'acheter des jeux car le Stadia Store est également fermé. Donc, le magasin ne sera plus ne sera plus, n'est plus disponible. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un article qui date un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'avenir, même si c'était il y a deux jours. Le relâchement du projet de Google a été ressenti dès février 2021, soit à peine deux ans après que le service a été mise en ligne. Pourquoi? Ben, à Los Angeles, en fait, les studios de développement de Los Angeles et de Montréal ont été fermés entre-temps, donc on commençait à trouver que la soupe était de plus en plus chaude pour le service, même si Chromecast et Android TV avaient été ajoutés. C'était comme une espèce d'ultime tentative pour faire comme « Ben là, on existe! Utilisez-nous quand même! » Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas, ça n'a pas complètement fonctionné. Autre nouvelle qui ne va pas très bien dans le monde du jeu vidéo parce que ben ça arrive malgré tout. Ubisoft annonce la sortie retardée à nouveau du jeu Skull and Bone, donc ça voulait être une nouvelle franchise qui devait débuter imminemment, mais pour une sixième fois qui avait été annoncée pour la toute première fois à la E3 de 2017. Est repoussé à nouveau pour, comme je le disais, une sixième fois. Les temps supplémentaires a déjà porté ses fruits et apporté des améliorations impressionnantes à sa qualité, ce qui a été confirmé par les plus récents tests. Nous pensons que les joueurs seront super surpris positivement par son évolution, peut-on lire dans un rapport financier d'Ubisoft, qui a été particulièrement décevant dans les derniers titres, puisque des jeux qui normalement auraient dû connaître un certain succès n'ont pas performé. Notamment Mario et Lapin Crétin, Sparks of Hope, donc le deuxième volet de la franchise Mario et Lapin Crétin, ainsi que Just Dance 2023, donc qui normalement sont de gros vendeurs dans la période des fêtes, parce que ce sont des jeux familiaux dans les deux cas, Mario et Just Dance. Ben, cette année, la performance n'a pas du tout été bonne. Eux s'expliquent mal pourquoi, disent que bon, évidemment, on est en 2022, 2023, les gens ont de la difficulté à arriver financièrement, donc n'ont pas nécessairement l'argent à mettre dans les jeux vidéo et tout ça. Moi, j'ai envie de dire, surtout dans le cas de Mario et dans le cas de Just Dance, que les gens ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'il y a des passes mensuelles. Et dans le cas de Just Dance, pour faire encore plus mal, les anciennes consoles n'ont pas été considérées pour le service de jeu de 2023. Parce qu'en plus, 2023 qui sort sur uniquement les nouvelles consoles, donc Switch, PlayStation 5, qui est encore difficile à obtenir, et Xbox One, Xbox Series... oui. Donc, en plus que les jeux sont disponibles sur uniquement... Xbox One Series sont uniquement disponibles... Xbox Series, mais ne sont pas disponibles sur les consoles précédentes. Donc, PlayStation 4, PlayStation 3, la Wii U, Xbox One, Xbox 360. Donc, on a retiré les anciennes consoles pour le jeu. Ça leur a fait mal parce qu'il y a encore des gens qui jouaient sur leur ancienne plateforme, notamment la Wii U, qui était encore extrêmement populaire pour Just Dance et qui était dans les derniers vestiges de jeux encore faits dans les années les plus récentes. Ben, ça faisait en sorte que les gens n'ont pas pu se procurer le jeu en les mettant uniquement sur les nouvelles plateformes. Qui plus est, la version de Just Dance 2023, et ça j'avais mis un gros point d'interrogation quand le jeu est sorti, on a revampé le concept au grand complet où les personnages ont un seul costume, ne changent pas de couleur, on voit les visages et il y a une histoire dans les chansons, donc les personnages de chansons ont une certaine trame narrative, donc ont leur univers, mais à un moment donné, se mélangent tous ensemble pour aller sur d'autres chansons éventuellement. Donc, on a changé le jeu au complet pour l'année 2023, on l'a revampé, et en plus, on l'a dématérialisé. Donc, le jeu n'est plus disponible sur des cartouches, sur des CD, sur des CD, ça s'arrête là. Ce ne sont que des téléchargements en ligne. Donc, il n'y a plus de copie physique du jeu. Il y a des boîtiers, mais il y a des contenus téléchargeables à l'intérieur. Donc, ça aussi, ça ne fait pas l'unanimité. Et qui plus est, semble-t-il qu'il faut un abonnement payant pour jouer au jeu en général. Donc, comme il n'y a pas de jeu physique, il n'y a pas des chansons de base, il faut payer en plus d'un 79,99$ pour le jeu à plein prix. Si on ne profite pas des rabais du Boxing Day, du Black Friday ou de whatever quelle occasion spéciale. Donc, le jeu se vend extrêmement cher pour être dématérialisé et pour demander un abonnement payant. La même chose pour Lapin Crétin. On promet que Rayman viendra rejoindre la communauté, mais seulement d'ici l'été 2023, avec une passe qu'il faut payer un genre de 25$ supplémentaire sur un jeu qui se vend déjà 50, 60, 70$. Que Ubisoft ne vienne pas se surprendre après ça que les ventes sont décevantes quand ce que les joueurs voudraient le plus viennent dans des options payantes disponibles plus tard et où qu'on n'a pas accès au catalogue en partant. Et ce qui fait en sorte que des projets doivent être abandonnés, parce qu'évidemment, on n'a pas, on n'obtient pas les chiffres que l'on pensait avoir. Donc, des projets sans titre ont été officiellement annoncés. Est-ce qu'il y avait un Mario et Lapin Crétin 3 en préparation? Évidemment, ça n'arrivera pas. Est-ce que Just Dance 2024 pourrait ne pas arriver, ne pourrait ne pas sortir, ça serait pas complètement impossible non plus. Donc, normalement, un jeu d'Avatar était supposé sortir en 2024. Serait-ce le cas? Sait-on jamais. Assassin's Creed 2023 devrait rester dans le calendrier, tout comme Avatar, bon, comme je le disais, mais a rendu là. Si Skull and Bone, depuis 2017, est capable d'être repoussé, est-ce que les autres vont subir le même sort? Ça ne regarde pas très, très bien. Donc, évidemment, quand on essaie d'aller avec l'appât du gain, avec les contenus téléchargeables, les DLC, les passes de saison, les coffres pour acheter des bonus, tout de rajouter encore et encore et encore de l'argent dans ce genre de jeu-là, malheureusement, les gens, maintenant, évidemment, sont déçus et ne veulent pas suivre. Parce qu'en plus, ce genre de passe-là se vend pour à peu près le prix du jeu, si c'est pas quasiment le double. Donc, un jeu déjà à 80$, avec une passe de saison à 30-35$ pour un an, ben là, on est déjà rendu à un 115$. Puis s'il y a des choses qu'il faut acheter en plus, des coffres qu'on veut rajouter en plus, on rajoute un 5, un 10, un 15, un 20, ça va extrêmement rapidement. Et cet avenir des jeux vidéo-là, je le dis depuis longtemps, mais ça reste quand même beaucoup plus dommageable pour les franchises que profitable dans un certain sens. Déjà, Nintendo le faisait et qu'il y avait des résultats mitigés, même s'il y a des gens qui ne jurent que par, ben que d'autres compagnies qui commencent à le faire ou qui le font, mais trop agressivement. Pensons également à EA Games et l'entièreté de ses contenus téléchargeables pour, par exemple, les Sims. C'est ça. Ça devient tellement exagéré que les gens font comme, ben non, on suivra pas cette tendance-là. Désolé. C'est vous qui serez pas, c'est vous qui serez Z pogné avec votre stock trop cher. Voilà. On s'arrête une dernière fois au retour de la conclusion de l'émission ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. Jalouse avec cette nuit qui me tient. retour au deuxième service. Pour conclure l'émission, cette semaine, et ça me faisait quand même particulièrement rire de l'avoir trouvé par hasard. Donc Google, bon, qui justement tire la plug sur Google Stadia. Il y a un site qui répertorie tous les projets que Google a tiré la plug sur depuis quasiment les tout débuts. Donc, et pour les raisons que l'on donne, présentement, il y aurait 280 applications, services ou logiciels qui ont été tués par Google, killed by Google.com. Et c'est plutôt ludique en tant que tel. Donc, c'est un peu pour en rire plutôt que d'en avoir peine, j'ai envie de dire. Mais encore là, c'est peut-être parce que ça a changé de nom ou parce qu'on a décidé de renvoyer le service ailleurs. Je prends par exemple le Google Wallet Card. Donc, de 2013 à 2016, Google Wallet Card était une application pour ajouter ses cartes de crédit sur son téléphone cellulaire pour payer certains services. Évidemment, en fait, Google Wallet Card était en partenariat avec Mastercard. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que passé 2016, à peu près toutes les compagnies de banques ont décidé de lancer leur propre logiciel de carte et de le mettre en ligne. Donc, Google Wallet Card devenait relativement obsolète et surtout que c'était accepté avec uniquement Mastercard. Donc, évidemment, ça a pris le bord rapidement. Google Plus, comme je le disais à la blague tantôt, Google Plus de 2011 à 2019 était un réseau social se voulant l'alternative à Facebook, qui a quand même duré 8 ans, de 2011 à 2019. Donc, en même temps, si vous voulez vous rappeler de bons souvenirs que Google, en général, donc Alphabet, a pu développer au travers des années, c'est une bonne manière de répertorier certaines choses. YouTube Gaming était un service en ligne qui était rattaché à YouTube. Donc, évidemment, il y a encore du YouTube jeu vidéo, mais quand même. Donc, YouTube Gaming a duré de 2015 à 2019. D'autres qui m'ont fait sourire au travers de tout ça. Dragonfly. C'était quoi donc déjà Dragonfly? Je me souviens du nom, qui était un logiciel de recherche compatible avec la Chine. Pour, entre autres, avec la censure. 11 mois d'existence, 2018 à 2019. Des trucs plus récents, maintenant, bon, qui ont été rapidement, Google Stadia, 2019 à 2023. YouTube Originals, de 2016 à 2022. Originals étaient des séries de contenus originaux qui incluait des séries, des vidéos éducatives, de la musique, des partenariats de célébrités. Donc, qui a duré 6 ans quand même, les YouTube Originals. C'est maintenant officiellement terminé depuis cette année. Google Surveys, qui était un partenariat avec Google pour les recherches marketing. 10 ans d'existence, 2012 à 2022. Chose qui m'a surpris, Google Hangout. 2013 à 2022, qui était pour que les plateformes de messagerie se connectent. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est terminé pour Google Hangout il y a 2 mois déjà. Les applications dans Chrome, c'est terminé également. Depuis 2010 que ça existait, 11 ans d'existence. Google Duo, ça c'est surprenant. Google Duo, qui était de la vidéo... qui était du Snapchat, du Skype, qui était WhatsApp, Google Duo, c'est terminé. Cameos en Google, il y a 11 mois. Cameos, c'était des vedettes qui pouvaient faire des petites vidéos de « Salut, ici telle personne, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire ». Ben c'est terminé. Ça a duré, c'était il y a 11 mois, ça a duré 3 ans quand même. Donc, tout plein de choses, tout plein de souvenirs pour se souvenir de ce que Google a déjà fait et qui n'existe plus aujourd'hui. Il y en a quand même, des petits souvenirs. Google Mini, qui était une version plus petite de Google Search, qui était l'espèce de petit rond qu'on pouvait servir dans nos cuisines. Google Mini, qui était en 2012, aussi longtemps que ça. Mon Dieu, ça fait quand même longtemps. Donc voilà, il y en a plusieurs là-dedans. Donc ça vaut la peine d'aller se remémorer les produits que Google a tués. Killedbygoogle.com. Donc pour l'aspect un peu plus ludique, pour se commémorer également Google Stadia, qui n'est plus officiellement depuis ce mercredi. Et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Deuxième service ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. À la semaine prochaine. Salut!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Votre festival déjanté préféré de retour du 10 au 18 février 2023. Cette année, le FOCOF reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours Velours, Metz, Fudge, The Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Pearson, Feluca, Milankou, Mantis, You Do Right et bien plus encore du 10 au 18 février. Billets et informations au focoff.com.